Bonjour à tous et bienvenue dans l'espace de travail. Aujourd'hui, on va se poser une question simple en apparence, mais sans doute pas aussi simple que cela. Les livreurs à vélo, Deliveroo ou Stuart, ou les chauffeurs Uber et autres chauffeurs VTC, sont-ils des travailleurs comme les autres? Sont-ils des salariés comme les autres et doivent-ils être des salariés comme les autres? C'est une vaste question qu'on va tenter de se poser à l'occasion d'un événement politique dont on n'a pas encore parlé sur Mediapart, donc on va corriger le tir. L'Assemblée nationale, le 7 juin, a voté, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, un article qui instaure, la possibilité pour ces plateformes numériques de faire signer aux travailleurs qui utilisent ces plateformes ce que l'on appelle, ce que le gouvernement appelle une charte sociale, une charte de responsabilité sociale. Donc ces plateformes pourront faire signer des chartes facultatives qui sont censées définir les conditions et les modalités d'exercice de leur responsabilité sociale. Alors on va voir de quoi il s'agit. Pour ça, nous accueillons trois invités. Alors Jérôme Pimaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des figures des livreurs à vélo en lutte contre ou avec les plateformes numériques. Vous êtes membre du CLAP, le collectif des livreurs à vélo parisien, dont j'aime bien un des slogans qui est La rue est notre usine. Je trouve ça assez beau. Et si je ne m'abuse, la première fois que vous avez pris la parole publiquement, c'était dans un article de Mediapart, il y a bien longtemps, j'ai noté, je crois, en 2016, en janvier 2016,
C'est ça.
sur le travail ubérisé par ceux qui le vivent. Donc merci d'être là. Nous accueillons aussi Barbara Gomez. Bonjour. Vous êtes docteur en droit du travail. Vous avez soutenu votre thèse en décembre dernier sur le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques. Donc vous êtes tout indiqué pour discuter de ces questions. Et vous êtes également collaboratrice du sénateur communiste Pascal Salvodelli, par ailleurs. Et notre troisième invitée est Salwa Toko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Conseil national du numérique, donc dont les membres sont choisis ou désignés par le gouvernement pour éclairer la société sur les débats liés à la transition numérique, le débat économique, mais aussi débats économiques et sociaux, puisque le Conseil national du numérique a rendu un avis négatif sur ces fameuses plateformes, chartes de responsabilité sociale. Donc, alors peut-être on va juste commencer bêtement avec vous, Barbara Gomez. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que ça sera, cette fameuse charte sociale, charte de responsabilité. Qu'est-ce que le gouvernement a en tête?
Alors, juste petit point procédure, pour l'instant on ne sait pas, on n'est pas
Tout à fait.
encore sûr que cette
Absolument.
charte sera de droit positif bientôt, puisqu'il faut encore attendre la CMP, les commissions mixtes
Ouais. En
paritaires,
fait, voilà,
pour.
ça a été voté par l'Assemblée
Voilà.
nationale, mais le Sénat ne l'avait pas voté, donc la commission mixte paritaire doit mettre les deux chambres d'accord et on verra ce qu'il en
Exactement.
sort.
Donc on verra effectivement, donc fin juillet, normalement, on devrait être fixé là-dessus. Si cette charte effectivement devient de droit positif, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aimerais d'abord dire que cette charte de responsabilité sociale a un nom qui est assez cocasse, dans la mesure où on retire justement des responsabilités sociales aux plateformes avec cette charte. Au lieu d'appliquer le droit du travail, puisque les juges, avec les arrêts Take It Easy, puis l'arrêt Uber, et
On va
puis
en parler,
toutes
ouais.
les
On va
décisions qui ont
détailler
découlé,
tout ça.
clairement, on est sûr, hein, du côté des prétoires, qu'on a affaire à des travailleurs salariés. Le gouvernement, en revanche, lui, essaie de sortir ces travailleurs des protections du droit du travail en élaborant des chartes, donc, de déresponsabilisation sociale. Je pense que c'est ça le vrai mot. L'idée, c'est que avec ces chartes, un certain nombre d'éléments concernant les modes de rémunération, les conditions de réalisation de l'activité, de mise en relation avec les clients des plateformes, et encore d'autres éléments, vont être déterminés donc par un accord finalement entre les plateformes et, apparemment, c'est la nouveauté, les travailleurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop encore comment ça va se passer au niveau des négociations, quelle va être la capacité réelle du poids de négociation des travailleurs des plateformes là-dessus. Ils vont être désignés et pas élus, apparemment, par ordonnance. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et surtout, ce qui est aussi problématique, là, en tant que juriste travailliste, on est très attentif à ça, on se rend compte que les prud'hommes sont dessaisis de leurs compétences. Puisque les éléments contenus dans la charte, les éléments relatifs aussi à l'homologation, à la conformité de la charte au code du travail, ce qui est très étrange puisque justement la charte a vocation à ne pas s'appliquer au code du
Sortir
travail,
en
donc on ne
fait.
comprend pas trop. Mais en tout cas, tous ces éléments-là devront être examinés par une juridiction spécialisée, dédiée, c'est écrit dans les amendements, qui ne sera pas, du coup, le juge social, mais des juges civils. Donc, on essaie vraiment de sortir un maximum des responsabilités. Pour terminer, l'exposé des motifs indique que tous les éléments contenus dans cette charte ne pourront pas servir au juge à requalifier.
Alors, il faut expliquer. En salariat. Ça veut dire quoi ?
Alors, le juge, finalement, pour le dire un peu trivialement, il s'en fiche de ce qui est écrit sur le contrat. C'est écrit « je suis un indépendant », c'est un contrat de prestation de service. Le juge social, il est conscient que bon, on signe un peu comme on peut. Il faut bien gagner sa vie, donc on est conscient que l'employeur peut un peu forcer la qualification. Donc, finalement, ce qui est écrit sur le papier, on s'en préoccupe pas. Ce qui intéresse le juge, c'est les conditions réelles d'exécution de l'activité professionnelle. Et donc, lorsqu'il se rend compte, ou qu'elle se rend compte, que les conditions de fait de cette activité professionnelle relèvent qu'il y a l'exercice d'un pouvoir et donc une sujétion de l'autre côté, vraiment très brièvement, on considère que c'est donc du salariat. Donc ça, c'est la capacité de requalification.
Tout à fait. Donc, requalification du contrat entre un indépendant et son donneur d'ordre en contrat de travail salarié classique. Donc là, je dis juste avec ce qui implique le paiement d'heures supplémentaires, une couverture sociale, des congés payés,
minimum, cotisations. Les congés, donc c'est toute l'application du droit social. Et puis la capacité de résistance aussi à des décisions qui seraient dangereuses, qui seraient excessives. Donc ce pouvoir de requalification, les chartes de responsabilité sociale, justement, ont vocation à le confisquer au juge. Évidemment, il y a plein de façons pour le juge de retrouver ce pouvoir, mais ce sont des obstacles supplémentaires. Et pour être vraiment sûr que le juge social ne veut pas mettre son nez dans cette affaire, on va jusqu'à lui prendre une majeure partie, finalement, du champ qu'il est susceptible d'analyser pour le donner à une juridiction dédiée. Donc, on voit vraiment qu'on contourne, on contourne un maximum le juge social.
On n'a pas encore de détails sur cette juridiction. Peut-être, Jérôme Pilmeau, vous pouvez nous dire... de votre point de vue, mais aussi de celui des livreurs mobilisés, donc maintenant quand même un peu partout en France, pour obtenir des conditions de travail de meilleure qualité, pour dire les choses bêtement. Comment ce vote de charte de responsabilité sociale, telles qu'elles sont présentées, comment c'est vécu ?
Il est vécu de très loin. Les livreurs sont dans une telle situation souvent de précarité ou même d'obstination de travail, d'abnégation, qui voient ça de façon très lointaine. Les quelques qui s'en préoccupent, évidemment, sont les gens qui travaillent sur les plateformes depuis longtemps et qui ont vu la dévolution, contraire d'évolution, des conditions de travail, en fin de compte, leur tomber dessus.
Juste pour dire, on suit sur Mediapart depuis quand même maintenant au moins 2 ans. Des combats réguliers, des grèves régulières, notamment parce que les conditions de rémunération baissent régulièrement pour ces livreurs, notamment.
Voilà. Et on est vis-à-vis de la grande majorité des livreurs sur des gens qui travaillent quand même depuis 6 mois, 1 an, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de turnover. Et donc évidemment, ces gens-là sont très, très peu informés, et on voit d'autant plus que les livreurs viennent maintenant des couches des plus en plus... fragile de la société et donc évidemment des gens qui n'ont pas forcément accès à ce que c'est que du droit du travail, à ce que c'est que du droit social en fait. Donc on voit bien que les chartes, c'est vraiment un espèce de produit d'élite qui est fait pour les gens, les militants, les politiques, évidemment les plateformes. Et ce qu'on retrouve dans les amendements, dans les chartes, sont souvent des espèces de rêves, de souhaits des plateformes. On en parle souvent sur les réseaux sociaux, cette espèce de casse de l'outil organisationnel des plateformes. Chez Deliveroo, qui reste encore la plateforme la plus reconnue, parce qu'elle est là depuis très très longtemps, depuis 4 ans, il y a un système de shift, en fait. On s'inscrit sur des plages horaires. Et donc, cette inscription sur des plages horaires est attachée à un système de statistiques. En fonction de comment on travaille, on a accès ou pas plus ou moins tôt. C'est ce que j'appelle moi l'essence même de la subordination chez Deliveroo. Deliveroo qui dit qu'on travaille quand on veut, mais en fin de compte, on travaille de fait quand on peut, parce que si on n'est pas bien dans le tableau statistique, on n'a pas accès au planning. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand même, au niveau de Deliveroo, a un avantage concurrentiel, parce que ça permet à Deliveroo d'organiser son travail. Un certain nombre de livreurs dans telle zone par rapport à la connaissance qu'ils ont du marché... permet voilà de pas avoir trop de gens et donc de permettre à ces livreurs d'avoir un certain chiffre d'affaires. De l'autre côté, on a le modèle Uber qui là, c'est la jungle. Il y a pas de planning en fait. N'importe qui travaille n'importe quand, mais le principe d'Uber, c'est d'avoir beaucoup beaucoup trop, une espèce d'inflation de livreurs, de façon à ce que tout soit livré dans les temps, et à partir de là on se retrouve avec 10 livreurs de connectés, d'inscrits pour 2-3 commandes en partance. Et donc en fait, quand on voit bien que les livreurs de Deliveroo veulent garder l'outil statistique, l'outil on va dire de subordination, pour ne pas tomber dans l'anarchie, libérale.
Parce que le livreur d'Uber, disons qu'il est disponible, il allume son téléphone, il attend la course. Pendant ce temps-là, il n'est pas payé, on est d'accord.
Il n'est pas payé.
Il faut le rappeler. Quoi.
Mais le livreur Deliveroo non plus.
Non plus, mais il sait dans quel créneau il est censé être appelé, disons.
Voilà.
C'est ça la différence.
Et donc, en fin de compte, les chartes, en fin de compte, le but du gouvernement, ça a été, on va dire, d'aller plus vers un modèle Uber sous prétexte de liberté individuelle pour les travailleurs, donc d'aller vers cette jungle qui fait qu'en fin de compte, on s'inscrit, mais on ne sait pas si on va travailler. Et donc, ça nous fait penser qu'en fin de compte, cette loi était quand même vachement souhaitée, pour ne pas dire écrite par Uber, parce que ça permet à Deliveroo d'être un petit peu dans la panique, parce qu'on l'a vu par rapport à certains sondages qu'ils ont envoyés à leurs livreurs. Est-ce que vous soutiendriez un projet de loi qui vise, grosso modo, à
supprimer les shifts.
Qui vise à protéger les shifts, en fait. Grosso modo, est-ce que vous voudriez garder cette chaîne qui vous permet d'être inscrit? Donc évidemment, tout un tas de gens répondent oui. Évidemment, ceux qui ont accès en priorité au planning, pas ceux qui sont tout en bas du panier.
Oui, bien sûr. D'accord. Bah, alors, donc Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique, vous entendez des avis assez négatifs sur cette initiative du gouvernement. Je vais lire une toute petite partie de la prise de position officielle du CNUM, comme on dit, qui date du 3 juin, qui est elle aussi assez négative. Vous allez nous expliquer comment vous avez pris cette décision et puis quels sont les enjeux. Donc je lis. Le Conseil national du numérique demande au gouvernement d'abandonner ce dispositif qui ne permettra pas de protéger les travailleurs de façon satisfaisante et, pire, instaurera un rapport de force déséquilibré en faveur des plateformes. Bon, c'est assez clair.
C'est clair.
Je ne sais pas si le gouvernement s'attendait à une prise de position aussi forte de la part d'une instance dont il nomme les membres.
On les avait prévenus. Alors, pour être tout à fait claire et transparente, le Conseil national du numérique est une entité, effectivement, dont les membres sont nommés par le secrétaire d'État au numérique avec l'aval du Premier ministre. Mais nous sommes tous bénévoles et volontaires et strictement et farouchement indépendants. Donc c'est pour ça que nous pouvons nous permettre, nous avons un rôle de vigie, et donc on se permet justement de pouvoir jouer en fait en toute transparence et en toute neutralité ce rôle de vigie et de veille auprès de l'ensemble en fait de la société, mais aussi auprès du coup du gouvernement et des administrations et des institutions pour permettre d'essayer de mettre toutes les parties prenantes autour de la table et d'envisager en fait les différents scénarios, les différentes hypothèses qui pourraient aller toujours dans un sens en fait pour nous qui est notre ligne rouge à ne pas dépasser, c'est les droits de tout à chacun, que ce soit les droits d'un travailleur des plateformes ou les droits d'un citoyen lambda sur les réseaux, son droit inaliénable d'expression, de liberté, d'indépendance. Alors ça peut paraître effectivement un peu atypique que le CNUM s'exprime sur une question de droit du travail, de droit social, mais on est là sur un droit du travail qui est typiquement concerne en fait effectivement cette économie numérique. Et que nous, cette question des chartes, en fait, nous a alerté sur plusieurs points. Un, le fait qu'on instaure en fait un langage qui a trait en fait à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises pour parler de droit du travail nous interpelle. C'est une première. On estime que c'est un peu une brèche en fait dans les éléments juridiques en fait de la gestion du droit du travail en France. Ces chartes, malgré toute leur volonté de vouloir essayer de
d'apaiser les tensions et le climat, maintiennent en fait et mettent en place un vrai déséquilibre en fait de rapport entre ces travailleurs dits indépendants et les plateformes en fait qui offrent ce service.
Je vous interromps juste une seconde pour dire quand même ce que le texte de loi qui a été voté prévoit quand même pour qu'est-ce qu'il y aura dans cette charte. Il y aura le fait que les livreurs connaissent par avance le prix d'une course, que le refus d'une course ne peut pas être sanctionné, ce qui peut être le cas aujourd'hui, qu'ils ont le droit d'être déconnectés et qu'ils ont le droit par ailleurs à un compte personnel de formation pour se former, etc. Alors est-ce que c'est pas positif par rapport à la situation actuelle qui de toute façon est très difficile?
Alors c'est suite à notre première prise de position du coup Bérangère Couillard, rapporteur à l'Assemblée de ce projet de loi, a mis en place en fait dans cet amendement, et ça a fait partie un peu de quelques discussions qu'on avait pu avoir. Au-delà de cette question de responsabilité sociale, c'est aussi que ces chartes, elles restent en fait symboliques dans ce sens où ce sont les plateformes elles-mêmes qui les mettent en place. Volontairement non, voilà. Donc il n'y a pas d'obligation véritablement à les mettre en place. La deuxième notion qui a été introduite par Bérangère Couillard, c'est cette question en fait d'homologation. Mais comme l'a très bien souligné Barbara, on ne sait absolument pas en fait de quoi sera faite cette homologation. Et on aimerait nous beaucoup accompagner et travailler cette question avec le gouvernement. Donc je sais que ce sont les services du Premier ministre qui vont devoir se pencher en fait. Sur cette question. Pour autant, pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur les attentes en fait des travailleurs notamment quant à l'effectivité en fait de la mise en place de ces chartes. Il y a nous aussi un autre point qui nous interpelle, c'est que pour peu que ces plateformes et les plus grosses d'entre elles soient en capacité de mettre en place des chartes plus ou moins satisfaisantes, quid des nouveaux acteurs, quid des petits acteurs qui n'auront peut-être pas effectivement la possibilité de pouvoir prétendre à mettre en place des systèmes en fait, des systèmes équivalents, et donc on estime qu'il y a une distorsion de concurrence dans ce secteur qui nous paraît un petit peu dommageable et dangereux. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, et c'est pour ça que nous avons appelé en fait à la mise en place d'un dialogue social, d'un vrai dialogue
social. Oui, c'est ça, c'est intéressant, voilà. La question du dialogue social, parce que vous le citez, ça fait partie de votre avis officiel. Barbara Gomez, vous l'avez déjà dit, on ne sait pas exactement comment ces chartes pourraient être négociées. Donc là, je me tourne vers qui veut, mais Jérôme Pimaud, vous avez aussi expérimenté de première main le fait que c'est pas facile de discuter avec ceux qui ne sont pas des employeurs officiellement, mais qui ont quand même beaucoup des attributs. Comment ça pourrait se passer? On va discuter d'une charte. Alors d'abord, est-ce que les collectifs comme le vôtre en France seraient disposés à discuter d'une telle charte? Et ensuite, qui en discuterait?
Il y a tout existe déjà au niveau des collectifs. On passe dans les médias depuis déjà 2-3 ans. Ça veut dire qu'on est déjà reconnu à ce niveau-là. On reconnaît le travail qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que les collectifs sont pléthoriques. Il y a donc déjà du collectif qui existe, ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce qu'au départ, l'ubérisation s'était un petit peu créée pour atomiser le travailleur, donc un petit peu scinder les collectifs, voire les atomiser. Et donc, en fin de compte, on s'est aperçu qu'en fin de compte, les livreurs ont repris leur téléphone. Ils ont switché de l'application Uber ou Deliveroo pour aller vers des groupes de réflexion, on pourrait dire, des groupes Facebook. Et donc voilà, on recrée du collectif. À partir du moment où il y a du collectif, il y a des revendications qui arrivent, il y a des réflexions et des réponses qui sont déjà là. C'est pour ça qu'en fin de compte, quand j'ai vu les débats à l'Assemblée nationale où, en effet, Elisabeth Borne disait qu'il fallait...
des transports.
Oui, pardon, Elisabeth Borne. Disait qu'il fallait se donner le temps pour mettre en place la représentation, la représentativité. l'efficacité, la légitimité. Oui, ça permet surtout au gouvernement et aux plateformes d'avoir encore un répit parce qu'elles savent très bien qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à représenter et à être des porte-voix, puisque en toute objectivité, hein, parce que même si on prête souvent des allégations aux travaillistes, certes, il y a tout un tas de gens avec qui je travaille qui ne sont pas forcément dans cette mouvance-là.
Qui ne souhaitent pas forcément une requalification des contrats en contrat de travail, des choses comme ça.
Ceux-là, mais non, mais je veux dire qui vont dans une espèce de, comment dire, de socialisme libertaire, voilà, une réappropriation et puis une collectivisation, une coopération des travailleurs. Et donc on voit bien qu'il y a tout un tas déjà de gens qui sont prêts à négocier. Je serais d'ailleurs pas celui qui serait le plus intéressé par ça.
Mais c'est possible.
Donc c'est possible, ça existe. Il y a déjà tout un tas de groupes et de collectifs qui existent et qui ont des idées des fois très très progressistes.
Et Barbara Gomez, techniquement, même en termes de droit, c'est possible soit d'organiser des élections, soit de désigner des groupes, soit de proposer aux volontaires de se présenter. Enfin, je sais pas comment ça pourrait se passer.
Non seulement tout est possible, comme en plus, en réalité, tout est déjà là pour le faire. Et c'est pour ça que on a beaucoup parlé tous les trois de symbolique. Et effectivement, c'est quelque chose de symbolique. C'est une mesure qui n'est pas absolument pas juridique. C'est une mesure politique. C'est une mesure qui propose un chemin de société très clairement. Et ce qui me permet d'affirmer cela, c'est que tous les dispositifs existent déjà en droit du travail pour permettre une adaptation du droit du travail à la nouveauté de la pratique. Mmh. Ça existe déjà. Si on suit donc les arrêts techniques.
Ouais. Alors, je fais un petit point, je me suis fait une petite liste pour raconter ce qu'il en est.
Tard.
Non, mais allons-y. On les pointe.
Si on dit effectivement, peut-être que certains avaient encore un doute, on n'en a plus, très bien. Il existe des dispositifs qui doivent être appliqués, notamment le Conseil social et économique. Ce Conseil social et économique, il peut faire tout ce qu'il y a dans la charte. C'est-à-dire que ses compétences, en réalité, recouvrent tout ce qu'il y a dans la charte. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument retirer, en réalité, la capacité du collectif de travail à demander des avis, demander des consultations, demander la négociation sur la construction normative de la plateforme, d'avoir un droit sur le collectif de travail?
Simplement, ce CSE, Comité social économique, qui a remplacé le comité d'entreprise, donc il y a pour but de représenter, enfin c'est les représentants du personnel pour dire les choses, il peut s'appliquer dans un cadre où il n'y a pas de salariat officiel?
Justement, c'est que là, en fait, ça serait prendre acte du fait que ces gens sont des salariés. Donc, en réalité, le besoin législatif, c'est un besoin d'adaptation, de reconnaissance du droit et d'adaptation. Si jamais on allait vers une troisième voie, c'est ce que propose cette charte, qui, par ailleurs, a suffisamment de failles pour être reprise par les juges et permettre quand même des requalifications, même s'il y a de plus en plus d'obstacles. Si jamais cette charte passait, il suffirait de s'inspirer aussi des dispositifs qui existent encore déjà en droit du travail. Problème, et ça me rappelle une conférence qui était assez ubuesque, où un ensemble de personnes plutôt libérales considéraient qu'il serait très intéressant effectivement de mettre en place des chartes, etc. Ils disaient, mais le problème, c'est qu'on risque de subir, si on fait des accords, de subir une atteinte au droit à la concurrence, concurrentiel, etc. Et donc, ils commençaient à sortir plein de choses, et puis je me souviens de leur dire, mais vous savez, quelque chose est très efficace pour se mettre d'accord sur des conditions de travail particulières dans l'entreprise ou dans le secteur, avec les travailleurs, enfin ce que vous voulez faire, ça s'appelle une convention collective. Encore une fois, on essaie d'inventer l'eau chaude avec des dispositifs qui vont être éminemment compliqués, tout ça pour faire moins bien. On revient à ce qu'on... Moi, ça me rappelle les règlements d'entreprise. On est avant le droit du travail où l'employeur, dans sa grande bienveillance, accorde quelques petits droits. Mmh. On parle quand même de rémunération décente, par exemple, dans la charte. Mmh. On ne parle pas de rémunération minimale. Le travail décent, moi, je connais ça dans les conventions de l'Organisation internationale du travail pour des pays qui n'ont pas des dispositifs de protection sociale et droits du travail étendus, généralisés. Ouais. Donc là, on est en France et on est en train de dire on ne va plus appliquer le salaire minimum, mais le travail décent pour des catégories de salariés qui, comme l'a dit Jérôme, sont parmi les plus précaires parce qu'on a tellement cassé les conditions de travail au fur et à mesure que maintenant, on a des gens qui sont là. Le problème du travail des enfants, des problèmes des travailleurs, des migrants qui font des...
Enfin, il y a beaucoup de cas, effectivement, où voilà. On voit que des gens qui ne devraient pas travailler ou qui sont les plus pauvres des plus pauvres ou les plus précaires des précaires se retrouvent à faire de la livraison... En sous-louant des contrats. Enfin,
bon, mais c'est parce que c'est, le droit du travail, c'est aussi un droit de régulation de la concurrence sociale entre les travailleurs. Ça permet de dire qu'en dessous d'un certain seuil, on ne peut pas travailler. On ne peut pas finalement vendre à ce point sa dignité. C'est une limite à l'exploitation du travail collectif. Et le problème avec des modèles qui se construisent sur une ingénierie juridique qui vise à contourner le contrat de travail comme modèle, c'est que le droit du travail, du coup, ne s'applique plus et qu'on a une concurrence sociale qui va, du coup, aller vers le moins-disant et une paupérisation terrible. Encore une fois...
Ce que nous, on a souligné, ce qui nous alerte aussi beaucoup avec l'instauration de ces chartes, pardon, c'est... On assiste quand même à une dérive, en fait, de ce qui est le socle aujourd'hui du pacte social en France, qui est quand même un des pays qui a lutté pour protéger au mieux ses travailleurs, avec tout type de travailleurs. Et c'est pour ça qu'on insiste bien, nous, sur l'absolue nécessité aujourd'hui, au XXIe siècle, de repenser et de retravailler l'ensemble, en fait, du droit social et du droit du travail de ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, qui n'a pas été revu, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui aujourd'hui, le travailleur indépendant aujourd'hui au XXIe siècle n'est pas le travailleur indépendant post-Seconde Guerre mondiale, qui était des artisans et des commerçants. Donc, je serais, ça c'est un avis qu'on partage, en fait, au sein du Conseil national du numérique. Nous serions très réticents à dire qu'il ne faut travailler que sur la problématique bien précise de ce que nous avons nommé les travailleurs des plateformes, mais de revoir, en fait, dans son ensemble, les conditions, en fait, d'exercice, en fait, d'activité des travailleurs indépendants dans leur ensemble. Parce que nous avons fait, en fait, beaucoup de consultations, parce qu'en fait, ce travail, il est mené chez nous depuis l'été dernier. Puisqu'on avait été saisi par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Monsieur Mounir Majoubi, sur les régulations, les nouvelles modalités, en fait, de régulation des plateformes, et les travailleurs des plateformes étaient un des sujets, en fait, à traiter. Donc, on a mis en place pas mal de consultations, à la fois, en fait, en ligne et en présentiel, qui ont été plutôt productives. Et c'est là qu'est née la question des chartes, et on s'est rendu compte que finalement ces chartes n'étaient pas forcément la meilleure des solutions, et c'est pour ça qu'on a voulu rendre un avis. Autre chose,
j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est que vous craigniez que les travailleurs indépendants entre guillemets classiques, les gardes d'enfants, je sais pas, plein de possibilités, soient contaminé, entre guillemets, leur statut soit contaminé par le statut de travailleur ubérisé.
Complètement, parce que quand on ouvre une brèche, en fait, dans le droit, rien n'empêche petit à petit de continuer, en fait, à grignoter. Et c'est là tout le problème. Donc ça veut dire que c'est soit on se met tous autour de la table et on dit, OK, on revoit l'ensemble, en fait, de nos droits sociaux charmants et durement acquis et qui nous sont enviés quasiment par l'entièreté de la planète. Soit on décide de continuer à se battre.
Vous appuyez, en fait, aussi une position qui est prise par les juges. On parle du pouvoir des juges et c'est un peu ce qui pèse sur le débat. C'est-à-dire qu'on voit clairement les entreprises et peut-être le gouvernement essayer de colmater des brèches qui sont assez fortes, là, en l'occurrence, des brèches dans le modèle des plateformes. Puisque, donc, il y a vraiment deux décisions importantes. En novembre 2018, donc tout récemment, la Cour de cassation a jugé que les livreurs à vélo de Take It Easy, entreprise qui a fait faillite en 2016, devaient être considérés comme des travailleurs salariés classiques, notamment parce que l'entreprise disposait d'un pouvoir de sanction gradué comme tout employeur. Donc ça, il y a ce point précis.
Et de
contrôle, absolument. Donc on attend de savoir si ces décisions sur Take It Easy seraient étendues à Deliveroo et Uber, et en quel cas seraient... sans doute la fin du modèle des plateformes de livreurs à vélo, enfin point d'interrogation. Hein. Et une autre décision qui est aussi très inquiétante pour ces plateformes, c'est que la Cour d'appel, donc quelques mois, vraiment deux mois plus tard, le 11 janvier, a jugé que là c'était un chauffeur Uber, tout ce qui est plus classique, devait être considéré comme un salarié classique. Donc là aussi on a quand même un gros point d'interrogation. Et donc dans la foulée de la Cour de cassation concernant Take It Easy, Cette fois-ci, les prud'hommes requalifient en masse. Ouais. Forcément, il y a des dizaines de cas ces derniers mois de salariés, de livreurs à vélo qui disent « Mais moi, je suis salarié. La Cour de cassation a dit que j'étais un salarié. Donc, vous allez devoir me payer mes heures sup, mon salaire minimum, mes congés payés.
Voilà. » Et c'est pas qu'en France. C'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est que c'est massif. Donc, je vais faire peut-être le lien, du coup, avec vos deux interventions. Il y a un jeu des plateformes numériques de travail sur de nombreuses frontières. Le jeu collaboratif marchand, faire passer le jeu de l'économie collaborative désintéressée pour, ou plutôt l'économie marchande qui, elle, est intéressée pour quelque chose de désintéressé. Je me souviens qu'aux premières années de ma thèse, on m'a dit, mais c'est une plateforme de travail, mais n'importe quoi, c'est pas du travail, c'est juste pour se faire un petit peu d'argent de poche, ou c'est ludique, comme si le travail, on pouvait pas aimer son travail. Bref. Et donc avant que ça s'installe et qu'on reconnaisse déjà la professionnalisation de certaines professions, c'était compliqué, mais il y a toujours un jeu comme ça de frontières entre ce qui relève du collaboratif et ce qui relève du marchand. Et puis ensuite, dans cette phase marchande, on joue sur est-ce qu'on est une plateforme juste support à des activités réellement indépendantes, et auquel cas il faut effectivement donner ces lettres de noblesse, redonner ces lettres de noblesse au travail réellement indépendant, avec des gens qui ont leur propre clientèle, qui prennent leurs propres décisions, qui ont une identité propre sur un marché, donc qui ne dépendent pas complètement de l'étiquette Uber ou Deliveroo ou n'importe quoi. Et de l'autre côté, une entreprise qui développe une activité de service, une activité économique commerciale et qui a besoin d'avoir des contrats avec des travailleurs qui portent sur leur force de travail. C'est tout. Il n'y a pas de service particulier. Ce qu'on veut, c'est de la force de travail pour réaliser une activité. Et donc, on va encadrer un maximum, on va sanctionner, etc. Et les juges, lorsque les juges de la Cour de cassation ont découvert ces pratiques-là, ils se sont effectivement rendus compte que, d'une part, on était sur quelque chose qui était un secteur marchand classique, comme en plus, on n'était pas sur une intermédiation numérique simple. C'est-à-dire souvent, on dit, mais moi, je suis juste un intermédiaire. Hein. Je ne fais que permettre la rencontre entre deux personnes. Je n'interviens absolument pas. Fonction support. Donc déjà, les juges, en reprenant des décisions européennes de la Cour de justice, dans l'arrêt Elite Taxi contre Uber, avaient dit, non, ce n'est pas l'intermédiation numérique, c'est une modalité d'exécution du service, mais le cœur du service, c'est un service de transport. Voilà. Ils suivent cette ligne-là et puis ils disent, voilà, en plus, moi, ce que je vois, c'est que pour organiser cette activité, on contrôle, on encadre, on dirige l'activité. L'arrêt Equitizi, il est très bref. Moi, je pense que c'est un message aussi porté au législateur en disant, voilà, moi, je fais semblant que c'est très, très simple. D'ailleurs, je ne fais même pas semblant. C'est que c'est très simple. C'est pas parce qu'il y a une nouveauté technologique que finalement, le rapport de travail est changé. Pour moi, c'est la surnomination de tout ce qui est plus classique. Sinon, renforcé par l'outil informatique qui automatise tout et qui permet un contrôle permanent. Bon. Et beaucoup de personnes considéraient que c'était juste un arrêt d'espèce. Donc un arrêt d'espèce, c'est un arrêt qui a vocation à régler un litige, un type de litige en particulier, qui n'a pas vocation à faire jurisprudence, c'est-à-dire à devenir une forme de règle que toutes les cours vont suivre. Et puis, deux mois après, l'arrêt Uber. Alors pourquoi est-ce que cet arrêt, en réalité, acte la jurisprudence Equitizi? Parce qu'on est sur le même type de modèle. C'est-à-dire, on est sur une plateforme qui développe une activité qui a besoin de travailleurs pour la réaliser. Et donc, même décision, mais cette fois-ci très, très détaillée, où on va dire, voilà, la Cour considère qu'il y a un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, qui sont les trois caractéristiques du pouvoir. Et en plus, ce qui est très intéressant dans cet arrêt, c'est qu'ils disent, mais ces gens ne sont pas indépendants. Ils sont enregistrés au registre des commerces, du commerce et des sociétés. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, ils ne peuvent pas devenir, et ils mettent entre guillemets, partenaires d'Uber. Et puis la façon, la location de la licence VTC, elle se fait auprès d'un partenaire Uber. Un vrai, celui-ci. Partenaire Uber qui est rémunéré par le prélèvement sur le chiffre d'affaires du chauffeur qui donc doit réaliser un certain nombre de courses via l'application, donc voilà. Il est complètement intégré dans un service organisé, contrôlé en permanence par Uber. Donc non, il n'est pas indépendant. Il y a une contrainte économique très forte et un service organisé en plus. Donc là, vraiment, on est sur tout ce qu'il y a de plus classique en droit pour prouver qu'on est dans une relation salariée. Et les nombreuses décisions au niveau des prud'hommes montrent bien que vraiment, maintenant, pour les juges, c'est extrêmement clair.
Bah écoutez, on va s'arrêter là, mais je vous laisse la parole. Malheureusement, on est un peu tenu par le temps, mais Allez-y sans problème, et je voulais aussi savoir si on peut s'attendre à d'autres mouvements de protestations, de grèves, d'organisations ou bien de communication de la part des travailleurs.
Alors, les mouvements sont très spontanés, hein, de plus en plus, même si à l'époque du CLAP, on était un petit peu force de proposition. Maintenant, on est plus en fonction support et on est aussi sur la création, on va dire, d'instances nationales pour coaliser un petit peu tous ces collectifs. Mais c'est surtout, en fin de compte, pour un petit point final, il faut prendre la dimension de ce que sont ces plateformes. On n'est pas juste face à des entreprises classiques. Quand on voit ce qu'elles pèsent de façon capitalistique au niveau des bourses, enfin, au niveau de la bourse pour Uber, presque 100 milliards, et quand on voit les levées de fonds qu'arrivent encore à faire Deliveroo, Amazon vient de mettre 500 millions de dollars, on voit bien qu'en fin de compte, le projet, c'est pas juste de livrer des burgers ou de trimballer des gens. On voit bien qu'on est sur un projet de société social, antisocial à mon sens, et donc c'est pour ça qu'en fin de compte on est là sur des décisions politiques qui visent non pas à protéger les travailleurs mais qui visent à protéger ce modèle de société, parce qu'on est sur une politique libérale et donc on n'en sortira pas. Le fait de contracter chacun les autres, c'est un modèle anglo-saxon. On voit ce que ça donne, on voit ce que ça donne aux États-Unis, en Angleterre, on voit les désastres sociaux. À savoir si ce modèle-là est quelque chose qu'on peut intégrer en France, avec en plus des données statistiques, des espèces de corrélations statistiques qui font un petit peu, qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe en Chine avec la fameuse note civique. Donc ce mix des deux choses peut porter en France non pas du progrès, mais de la contestation.
Oui, puisqu'il faudrait surtout
Je suis navré. C'est sûr qu'on a.
Comment est-ce qu'on ne crée pas en fait de multifractures en fait dans le monde du travail et qu'on continue à laisser quand même aux gens la possibilité d'avoir envie d'être soit indépendant, soit salarié, mais de vivre tout à fait décemment au même titre que n'importe quel autre travailleur de secteur, on va dire, classique, secteur économique classique.
C'est vraiment un débat passionnant. Enfin, vous inquiétez pas, on va le poursuivre dans Mediapart,
sous
toutes les formes possibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Navré pour ce temps un peu contraint, mais bon. Et je vous dis aux spectateurs, à bientôt pour un prochain espace de travail.